LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
La ville des Aubonnes, elle a été, c'est une ville qui a été faite pour les thermes, parce qu'il y avait les thermes, et pour les curistes.
À la grande époque des Aubonnes, il y avait 700 habitants à l'année, et jusqu'à 6000 habitants pendant les périodes de cure thermale. Et aujourd'hui, on a moins de 50 personnes, donc ça montre, mais les bâtiments sont toujours là. Donc il y a beaucoup d'immeubles vides, et qui posent des problèmes de sauvegarde et de conservation.
Déshérence. Olivier Chaumel, François Teste. Aujourd'hui, Aubonne, station thermale en panne, souvenir d'une impératrice.
C'est une ville qui s'est faite en 30-40 ans, les Aubonnes, hein, en 1830 jusqu'à 1860. Donc, et ça a été fait pour le thermalisme. Donc il est évident que c'est l'essence même de notre commune et que d'avoir un bâtiment comme le nôtre en déshérence, c'est un crève-cœur monumental. Et c'est pour nous un choc incroyable.
C'est l'heure tristounette où les croupiers et autres employés du casino rangent les lieux. Que faire? Une dernière partie de blackjack? Mais monsieur, on vient de vous dire que l'établissement fermait. De toute façon, le monsieur s'est fait plumer ce soir. Il lui resterait bien la solution d'aller se loger une balle de revolver dans la tête, dissimulée derrière un buisson dans les jardins. Ah mais non, ça ne va pas non plus, car le casino des Aubonnes n'a pas de jardin, tant il est étroitement adossé à la roche. Les jolies dames sont parties. Décidément, ça n'est pas le jour. Alors le monsieur rentre la mort dans l'âme vers son garni. Il est descendu dans une auberge modeste. Le gigantesque hôtel des princes, ses salons luxueux, ses 150 chambres, sa clientèle très élégante et volontiers excentrique, son personnel pléthorique, ça n'est pas pour lui. Pour ce qui est des sommes d'argent faramineuses perdues ce soir à différents jeux de hasard, c'est décidé, il se refera demain soir. Il n'a pas le choix. Sans un retour de fortune, il n'aurait pas les moyens de payer sa chambre. La route thermale des Pyrénées, orientée est-ouest, avec quelques virages tout de même, avait été conçue pour faciliter l'acheminement des curistes vers les villes d'eau. Aujourd'hui, elle sert essentiellement à mettre en jambe les coureurs du Tour de France grâce au col d'Aubisque, de Marie-Blanque, d'Aspin, du Tourmalet. Le cyclisme de haut niveau se porte bien, le thermalisme beaucoup moins. On peut d'ailleurs observer que le déclin du thermalisme commence dans la période au début du XXe siècle, où la grande boucle prend peu à peu son essor. Mais il n'y a pas forcément de relation de cause à effet entre ces deux phénomènes.
Les premiers curistes des Aubonnes ont été au XVIe siècle les soldats d'Henri Ier de Navarre venus ici soigner leurs blessures avec les fameuses eaux d'arquebusade. Mais c'est le Second Empire et bien sûr l'impératrice Eugénie qui ont lancé la station à l'époque du pyrénéisme triomphant. Et les thermes gardent d'ailleurs du siècle dernier un cachet historique qui à lui seul vaut le détour. Mais les curistes viennent ici avec d'autres soucis, bien sûr, pour soigner des affections respiratoires grâce aux sources sulfurées et chlorurées. Les soins se prennent en général le matin avec d'abord l'absorption d'eau selon un grammage correspondant à l'état de chaque malade.
Jean-Luc Brault, vous êtes le maire de cette commune thermale du département des Pyrénées-Atlantiques, côté Béarn. Et vous dites de préférence les Aubonnes, alors que d'autres disent Aubonnes tout court. Et je me demande d'où ça vient cette indétermination.
Du fait qu'il n'y ait pas d'article devant le nom de la commune.
Donc sur les panneaux d'entrée de la commune.
C'est ça.
Mais dans la littérature, eh bien, on lit les deux.
On lit les deux. Moi-même, je dis les deux. Ça dépend mon humeur, ça dépend la phrase, ça dépend... Parce que c'est vrai de dire « je viens à les Aubonnes », c'est pas génial. Donc voilà, ça dépend.
Et vous êtes maire depuis quand?
Depuis 2020.
Et vous êtes originaire de par ici?
Non, pas du tout. Je suis originaire des Charentes.
Ah oui, c'est pas pareil.
Non.
Il y a un charme un peu mélancolique des villes d'eau. un folklore aussi. Celui de là où nous sommes, aux Aubonnes, on va dire, est particulier.
La grande particularité des Aubonnes, c'est qu'on est dans un village qui est figé. Alors certains diraient que c'est dommage, alors effectivement, parce que à force de se figer, les bâtiments souffrent, on est quand même dans un climat assez compliqué, nous avons des amplitudes thermiques assez importantes. La ville des Aubonnes est une ville d'été, dans le sens où la lumière, le soleil, touche la commune à partir de février-mars jusqu'à octobre-novembre, et de novembre à février, donc il n'y a quasiment pas de soleil. Donc c'est vraiment une ville d'été. Et l'hiver, cette ville un peu sombre, un peu humide lorsque le brouillard s'installe, donne une atmosphère assez hors du temps. Voilà, la commune est comme figée. Et donc toute la difficulté de gérer une commune comme les Aubonnes, justement, c'est de trouver le moyen de rester avec notre passif, c'est-à-dire avec des bâtiments incroyables, mais de les revaloriser. Mais malheureusement, c'est souvent des bâtiments qui sont des propriétés privées, donc il faut trouver des solutions.
Des astuces
et essayer de se réinventer, mais c'est toute la complexité là.
David Apesec, vous êtes architecte, vous exercez à Pau, si j'ai bien compris.
Oui, je suis entre Paris et Pau.
Qu'est-ce qui vous attire dans l'architecture ou les architectures thermales? Est-ce que ça a un sens générique de parler d'architecture thermale?
Ça a peut-être un sens en termes de période, puisqu'il y a eu un grand essor du thermalisme au milieu du 19e siècle. Un village comme les Aubonnes, par exemple, s'est développé sur une quarantaine d'années. Donc c'est très condensé dans le temps et ça correspond vraiment à une ferveur autour du thermalisme et presque une utopie thermale, quoi. Donc, et du coup, c'est très homogène en termes de forme de par cette période assez limitée dans le temps et très optimiste aussi. Il y a eu beaucoup d'optimisme autour du thermalisme. Et les Aubonnes se sont développées avec une architecture assez grandiloquente et qui montrait beaucoup d'espoir dans l'avenir de ce thermalisme.
L'architecture qui est conditionnée par l'activité thermale.
En fait, c'est vraiment une micro-ville qui se développe autour des thermes, à partir de rien. Et on crée tous les équipements pour accueillir des curistes sur des durées assez longues. Donc des grands hôtels, des pensions, des équipements de divertissement comme le casino, des thés dansants, des bals, des promenades. Le paysage est façonné aussi pour mettre en scène la montagne environnante. Donc c'est toute une ville qui se crée comme ça autour de l'activité thermale.
Je suis Christian Lousteau, là. J'ai été animateur touristique pendant 33 ans ici, sur la commune, parce que la commune, c'est Aubonnes, c'est Gourette, à la station de ski, 8 km plus haut, et les deux villages d'origine, en fait, qui sont accrochés sur les flancs de la Montagne Verte, que sont As et Assoust, qui sont des villages à vocation pastorale. Donc, As était la mairie de la commune jusqu'en 1861. Et quand l'impératrice Eugénie est arrivée, elle a fait passer la mairie à Aubonnes, aux grandes dames des habitants d'As, bien sûr, parce qu'ils tenaient à ce que la mairie soit à As.
Et elle est à l'origine de nombreux travaux.
Elle est à l'origine de nombreux travaux.
De travaux publics.
Alors, voilà. Et il faut dire que la station, elle est très vieille. La station du temps de François Ier. Déjà, on traitait les blessures ici. On les appelait les eaux d'Arquebusade, les eaux thermales, parce que c'était des eaux qui avaient des vertus cicatrisantes. Alors donc, on les appelait les eaux d'Arquebusade, d'Arquebusier, quoi, en fait. François Ier venait faire soigner ses blessés béarnais de la bataille de Pavie, notamment. Il venait les faire soigner ici, aux Aubonnes. Donc, le thermalisme, c'est très vieux. C'est très vieux, donc ça date dans les années... dans le milieu du XVIe siècle, quoi, dans les années 1500.
Vous n'avez pas dit, Christian Lousteau, qu'on était dans les Pyrénées-Atlantiques.
On est dans les Pyrénées-Atlantiques, voilà.
Et que vous étiez adjoint au maire de là où nous sommes.
Mais il n'y avait que des habitations vétustes à cette époque-là. Pour y arriver, c'est un problème, parce qu'il n'y avait qu'un sentier qui arrivait de la Reims. La première route qui a permis de venir ici, elle a été faite en 1808. Ensuite, en 1856, Napoléon III a fait construire cette belle route que vous avez vue, qui monte depuis la Reims, là, hein, avec des essences d'arbres variées. Hein. Il y a des essences d'arbres qui ne sont pas endémiques des Pyrénées, hein, puisqu'on a du mélèze. Le mélèze, ce n'est pas un arbre endémique des Pyrénées. Il y a des pins accrochés, il y a des pins Larichio, il y a toutes ces essences d'arbres qui ont été plantées de ce temps-là. Alors donc, première route accessible en 1808 ici, et en 1830 se sont construits les premiers bâtiments en dur. Et ici notamment, vous avez, en 1830, ce sont tous les bâtiments, l'établissement thermal, l'église et toutes les habitations qui jouxent de l'établissement thermal. Hein. Ça s'est construit en 1830.
Non.
Oui, je peux poser des
oui.
Ah oui, ça ne dérange pas.
Ah, d'accord. Donc je continue, je vais faire.
Il y a où le petit chien là?
Oui, il est au propriétaire.
Il a l'air un peu tout fou. Vous êtes architecte. Comment est-ce que vous la décririez, cette villa Excelsior aux Aubonnes?
Alors c'est une maison qui date de 1885, donc qui a été construite plutôt dans la dernière phase d'urbanisation du village à la fin du 19e siècle, puisque les villas, les quelques villas des Aubonnes ont été construites après le reste de l'urbanisation du village. Et cette maison est particulière parce qu'elle est tout en haut du village et elle se situe vraiment à l'orée au début de la vallée qui monte vers le pic de Gère, qui est juste en face, qui est un pic de plus de 2600 mètres. Et elle a été conçue comme un dispositif vraiment de captation du paysage, avec une très grande fenêtre de ce côté-là, avec des vitraux et un escalier à l'intérieur qui a été scénographié pour redonner l'impression de monter vers le pic de Gère qui est en face, qui est un paysage assez sublime, où c'est un grand pic qui est souvent enneigé à plus de 2600 mètres, et d'autres fenêtres qui sont plus hautes que les autres pour aller chercher un sommet en face. Et elle a un positionnement qui est très encaissé, dans le vallon tout en haut du village, et donc elle voit très peu la lumière du jour. Il y a à peu près 2 heures de soleil en été, sinon elle est tout le temps à l'ombre. Donc c'est assez particulier, mais en même temps, il y a une vue sur une vallée de conifères et puis la montagne, qui est très romantique et un positionnement assez privilégié.
Sinon, constate avec joie, pour être parfois venu ici aux Aubonnes, que le mini-golf a été défriché.
Et oui, de cet été, puisque la commune a deux personnes au service animation qui ont entrepris de réouvrir le mini-golf. Donc il a été actif cet été.
Excellente initiative. Bon, on rentre, on oui. Essaye de ne pas se faire manger par le chien. Quelle raison l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon, s'est prise de passion pour ces contrées-là?
Parce qu'elle était en vacances à Biarritz. Elle a découvert la station thermale des Aubonnes parce qu'elle avait des problèmes aux voies respiratoires. Donc elle est venue ici pour prendre les eaux et prendre l'air aussi, parce que ça faisait partie de la cure thermale. Et elle est venue ici, elle s'est prise de passion pour cette station thermale. Et elle a fait beaucoup de choses ici, oui, c'est vrai. Alors donc, elle a fait des promenades, par exemple. Il y a une vingtaine de kilomètres de promenades qui permettent aux curistes de prendre l'air. Et donc, elle a fait beaucoup de choses. Elle a réalisé, par exemple, elle a réagencé le jardin d'Harald. Le jardin d'Harald qui, jusqu'en 1841, s'appelait le jardin anglais, qui était une prairie mal entretenue, en fait, où passait la sourde, c'est un torrent qui descend dans la montagne et qui passe sous les Aubonnes. Il a été souterrainisé en 1861, mais avant, il passait à l'air libre, il traversait le jardin d'Harald et il se déversait sur le Valentin, là-bas. Le Valentin, qui est le gave qui descend depuis la montagne, depuis Gourette. Le Valentin qui se jette lui-même dans le gave d'Ausson. Voilà. En 1861, donc, on a fait construire ce jardin d'Harald, du nom de son docteur qu'elle vénérait, qui l'a soigné donc à l'établissement thermal. Le docteur Darald, qui a été un des bienfaiteurs aussi de la station.
Prosper, de son prénom, je
crois. Prosper Darald, voilà. Ouais.
Au point de vue médical, les aubonnes se rangent dans la grande classe des eaux sulfureuses naturelles, répandues en nombre considérable sur le sol de la France, et en particulier le long de la chaîne pyrénéenne. Elles sont thermales et émergent sur les limites du terrain primitif et du terrain de transition. L'aubonne est transparente, limpide, onctueuse au toucher et répand une odeur caractéristique de couvée. Elle tient en dissolution surtout du gaz azote dont les petites bulles viennent, en pétillant, crever à la surface du liquide. Sa température, qui tend à s'abaisser insensiblement, comme celle de toutes les eaux minérales, à cause sans doute du lent refroidissement de la Terre, subit aussi quelques oscillations passagères qui reconnaissent pour principale cause les tremblements de terre. Mais ces variations de thermalité sont rares et de très courte durée. Le thermomètre s'élève aujourd'hui d'une manière, on peut dire, constante, jusqu'à 32,75 degrés. Sa saveur légèrement hépatique rappelle assez le goût du petit lait, disait Bordeaux. Elle n'a rien de désagréable et ne provoque pas de ces répugnances invincibles comme font Enghien, Aix-en-Savoie, Aix-la-Chapelle et la plupart des eaux sulfureuses accidentelles. Docteur Marcelin Cazot, lettre médicale sur les aubonnes, 1875.
Et très vite, la prospérité du thermalisme en Béarn se propage.
Se propage grâce à des docteurs qui ont fait tout pour que, si vous voulez, les cures thermales soient reconnues. Ça a pris de l'ampleur. Alors, il y a beaucoup de monde qui est venu ici. Il y a des artistes, des politiques. Il y a Sarah Bernard qui est venue, oui, par exemple. Il y a des hommes politiques. Il y a le Kévid d'Égypte. Ismaël Pacha qui est venu, c'est celui qui avait inauguré le canal de Suez. Il y a des hommes politiques, Gramont. Alors il y a beaucoup de promenades qui sont à leur nom parce que c'est eux qui ont financé les travaux pour les promenades. Par exemple, un artiste comme Eugène Delacroix est venu en prendre les eaux justement pendant quelques années et il s'ennuyait et il, en même temps, si vous voulez, il était gêné par l'orchestre de l'hôtel. Et il était gêné parce qu'il jouait jusqu'à 11h du soir et ça le dérangeait énormément. Et c'est à partir de là, 1873, que s'est construit le casino. Parce qu'il fallait que pour amuser tous ces gens qui venaient prendre les eaux, qui venaient en cure thermale, il fallait un endroit pour qu'ils puissent s'amuser, quoi. Et on a construit le casino en 1873.
Au XIXe siècle, c'était une activité mondaine d'aller en cure, donc on attendait un certain niveau de divertissement urbain, quoi, digne d'une grande ville, quoi. L'aristocratie européenne venait aux aubonnes, donc il fallait pouvoir avoir les mêmes activités qu'en ville, donc des activités mondaines, des jeux, des thés dansants, des restaurants. C'était une vie presque de jet-set, quoi, à l'époque, dans un petit village comme les aubonnes. C'est un peu un Monaco dans les Pyrénées.
Ça va ? Je vous présente un indigène.
Un indigène.
On n'est pas nombreux ici, on est 180.
180, c'est une population assez faible par rapport à ce que c'était au 19e siècle.
Dans la moitié du 19e, il y a eu 750 habitants. Il faut dire qu'il y avait 19 hôtels et il n'en reste plus qu'un. Voilà, c'était l'époque, c'est la belle époque qu'on fait. Hein. Alors ici, vous avez le départ des grandes promenades, des grandes randonnées. Vous pouvez rejoindre par exemple le pic du Gers que vous avez peut-être aperçu, qui culmine à 2600 mètres d'altitude, et vous pouvez rejoindre l'Espagne par la montagne. Là. Hein? Et ici aussi, on est au départ de la promenade de l'Impératrice. C'est elle qui avait financé les travaux de la promenade, de cette promenade. Elle avait fait embaucher 400 ouvriers espagnols, parce qu'elle était d'origine espagnole. Donc, elle avait fait embaucher 400 ouvriers espagnols pour ouvrir cette promenade, qui allait d'ici à la cascade du Grouette, qui est une très belle cascade en montant sur Grouette.
Et ce qu'on observe, qui est évident aux Aubonnes, c'est qu'ici, tout est Eugénie, Christian Lousteau.
Oui, c'est vrai, oui. Oui, oui, elle a beaucoup fait pour les Aubonnes, c'est vrai. Elle a fait beaucoup de bienfaisance aussi, puisque je ne sais pas si vous avez vu au niveau du jardin d'Aralde, donc, il y a un kiosque où jouait tous les jours, à l'heure de l'apéritif, à midi et le soir, l'orchestre de communal. Et donc, elle faisait louer des sièges et des tables au bénéfice des pauvres de la commune. Voilà. Et elle a fait venir beaucoup de monde, en fait. Oui. Il y avait beaucoup de monde qui venait aux Aubonnes grâce à elle.
Qui est bien aux Aubonnes, c'est que tout est ouvert, beaucoup de bâtiments sont ouverts, l'église, on peut... Voilà. Et donc ça, c'est la source froide, qui est un petit bâtiment qui a été construit au 19e aussi pour ça. Et puis on voit les entrailles de la montagne, là, avec l'eau qui ruisselle, en fait. C'est comme un tunnel qui sort de la montagne.
On la voit couler, l'eau ?
Non, on la voit ruisseler.
Je vais
vous mettre
de la lumière. Elle coule par là. Ça, c'est de l'eau.
C'est une fuite.
Non, non, c'est vraiment l'eau qui sent le soufre. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'il y a la ficelle là sur le côté.
Ouais.
Voilà.
Il y a une adduction qui vient de. On ne sait pas où, c'est très sombre.
Ça doit faire une dizaine de mètres de profondeur.
Et les curistes venaient se servir un verre à la main.
Oui, c'est ça. Ouais. Comme dans les thermes, il y a une fontaine aussi à l'entrée des thermes. Il y a une fontaine publique dans laquelle on pouvait aller boire un verre d'eau librement, même si on n'était pas curiste, avec l'eau chaude qui jaillissait. Et c'était un peu un rituel. Avant d'entrer dans les thermes, on buvait son verre d'eau sur la fontaine à l'entrée.
Et là, on ne le ferait plus.
Je ne sais pas si les conditions d'hygiène sont réunies là.
Qu'est-ce qu'on soignait aux Aubonnes ?
On soignait essentiellement les maladies pulmonaires, hein, tout ce qui est respiratoire. Hein, voilà, après la phtisie, la tuberculose, voilà, toutes ces maladies-là. Ouais. Ensuite, on soignait aussi, on disait que l'eau des Aubonnes était réputée pour accélérer le rythme cardiaque. Donc, on y soignait aussi les dépressions, les choses comme ça. Oui. Les gens qui avaient besoin d'un petit coup de fouet.
Par conséquent, on mourait beaucoup aux Aubonnes.
Non, on guérissait.
Ça marchait pas à tous les coups, hein, je crois.
Ah, d'après le docteur Valérie Meunier, ça marchait très bien. On y venait de loin, on y venait de l'étranger. À la grande époque des Aubonnes, il y avait 9000 personnes ici, dans le village. Les gens faisaient la queue pendant des heures pour boire un verre d'eau.
Qui n'était pas très bonne d'ailleurs.
Non, qui a une odeur un peu, une odeur de soufre un peu, pas forcément très agréable. Ouais. Et il paraît qu'au début, c'était vraiment très rudimentaire les installations. Il y avait 6 baignoires en bois et tout le monde se baignait voilà, en suivant dans la même eau. Donc, c'était pas forcément très aux normes d'hygiène de maintenant. Puis, petit à petit, ils ont aménagé des choses un peu plus modernes. Et puis, l'essor vraiment de la station, c'est, on va dire, entre 1850 et la Première Guerre mondiale.
Le sulfure de sodium vaut à l'Aubonne son classement parmi les eaux sulfurées naturelles. L'influence médicatrice des agents sulfureux sur les maladies de la muqueuse externe d'abord, des muqueuses internes ensuite, et par un mode d'action analogue, est établie depuis de longs jours. Les dartreux et les arthritiques ont commencé par payer un large tribut à la médication sulfureuse. Puis est venue son application au catarrhe bronchique et à la phtisie pulmonaire. Les résultats les plus favorables continuent d'être obtenus tous les jours dans ces diathèses lentes, torpides, atoniques, qui portent leurs ravages soit sur le tégument externe, soit sur la muqueuse des bronches. Et c'est le sulfure de sodium seul ou associé au sulfure de potassium et de calcium qui remplit le rôle de régénérateur et d'excitant de l'énergie vitale.
À partir du moment où les progrès de la médecine ont fait que le thermalisme a un peu décliné, il y a eu une autre vague de prospérité ici sur les Aubonnes, c'est quand ont commencé les sports d'hiver, au début du XXe.
Isabelle Rugutor.
À cette époque, il n'y avait pas les stations de ski, comme Gourette ou les stations d'altitude ici, ça n'existait pas. Donc à cette époque-là, les compétitions de ski avaient lieu ici aux Aubonnes. Donc il y a eu une compétition internationale de saut à ski en 1908. Après la guerre, la station a servi essentiellement aux soins des blessés. Donc il y a eu notamment dans le relais d'Ossau à côté des soldats qui sont venus après la guerre de 14 ici.
Il y a une des sources qui est réputée soigner les blessures de guerre, effectivement.
Voilà, la légende, c'est une vache qui se serait blessée dans la montagne et qui aurait guéri miraculeusement en tombant dans les eaux des Aubonnes. La station aussi servit après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont accueilli des soldats américains pour de la rééducation, pour des soins. Il y a d'ailleurs une plaque sur le casino des Aubonnes de l'armée américaine, une plaque de remerciement. Voilà. Et puis la station thermale, elle a petit à petit perdu de son importance au fur et à mesure que le thermalisme est passé de mode. Jusqu'à la construction
et qu'il
de.
N'était plus pris en charge.
Et qu'il n'était plus pris en charge par la sécurité sociale, en tout cas pour une bonne partie.
Un des auteurs médecins dont je parlais, qui écrit « Il faut être riche pour se soigner aux Aubonnes ».
À la fin du 19e, c'était la grande bourgeoisie qui venait aux Aubonnes se faire soigner. Donc oui, là, il valait mieux être riche. Tout se payait ici, même les chaises dans le jardin d'Harald pour assister au concert de l'harmonie municipale étaient payantes. Les cures étaient longues, ça dépendait. Certains passaient tout l'été ici, aux Aubonnes. Vous allez voir, tout autour de la place, il y a essentiellement des hôtels. Les hôtels étaient pleins. La ville marchait bien, prospérait.
On est passé en gros de cette période phare de 8000 curistes à, avant qu'il y ait la réfection des thermes, donc avant qu'on ait les problèmes de bâtiment, à 800 curistes à l'année, quoi. C'est-à-dire 10 fois moins.
Et maintenant zéro.
Et pour l'instant, malheureusement, pour l'instant zéro.
Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Yves Bourreau ?
Eh bien, en fait, suite à des rénovations de l'espace thermal, des problématiques structurelles sur le bâtiment ont fait que nous avons été obligés de fermer le bâtiment et nous sommes en procédure judiciaire pour essayer de trouver une solution et réparatoire sur le bâtiment.
Ce qui s'est passé ressemble à un genre de fiasco.
Oui, moi je dis. Sur les Aubonnes, on a un troupeau de chats noirs, en fait. On a toujours des bonnes volontés, mais malheureusement, c'est pas suivi des faits. Donc, sur les thermes, c'est parti de bons sentiments. Un projet de rénovation sur l'ensemble du bâtiment. Mais malheureusement, des défauts de conception de la nouvelle architecture ont posé des gros soucis structurels. Il faut savoir qu'historiquement, c'est pas la première fois qu'il y a des fiascos ou des problèmes de ce genre. Sur le casino des Aubonnes, on a eu des soucis également à l'époque. Il y avait eu des soucis dans la construction. La commune avait été en procès avec l'architecte du casino. Sur la station de Gourette, on a des gros problèmes aussi structurels sur les bâtiments. Donc, voilà. On est coutumier du fait.
S'il n'y avait pas eu la construction de la bulle, la station fonctionnerait encore. Il y aurait encore du monde ici. Il y a encore du monde aux eaux chaudes.
Racontez cette histoire.
Oh mon Dieu, non.
Isabelle Rugutor.
Non.
C'est très politique.
Pas la bulle. C'est un sujet très délicat. Je viens d'acquérir un appartement aux Aubonnes. Je ne veux pas m'attirer la foudre.
On va se contenter de la décrire, parce que c'est un objet architectural très étrange.
Non, c'est un projet qui était censé relancer la station thermale, un projet un peu d'envergure, qui voulait aussi faire évoluer la station vers un côté plutôt thermoludique, essayer de faire un spa, voilà, pour l'agrément des skieurs, des gens qui redescendaient de Gourette. Voilà, c'était le but, je pense, de la construction de cette bulle à la base, de faire évoluer, vu que le côté soin était un petit peu en déclin. Il voulait faire quelque chose d'un peu, voilà, un spa, avec une architecture originale.
Une structure en bois.
Une structure en bois sphérique en forme de boule, qui devait être à la base, je crois, recouverte par des éléments en verre, lisse, ou en plexi, je ne sais pas. Enfin, ça ne devait pas être en tout cas tel que c'est maintenant. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des problèmes structurels. Donc, je ne vais pas rentrer dans la polémique, je ne vais pas dire. Le jour de l'inauguration, les piliers ont montré des signes de faiblesse. Et ils ont, je crois, fermé le jour même pour des contrôles. Et donc, les travaux avaient débuté en 2014. L'établissement a ouvert en 2016 et depuis 2016, c'est fermé.
Jean-Luc Brault, qui est maire des Aubonnes, quelle drôle d'idée, serais-je tenté de dire.
Disons que l'idée en elle-même, à la rigueur, on pourrait la trouver plutôt intéressante. Après, c'est la mise en œuvre qui n'a pas été bonne. D'abord, c'est les matières utilisées qui ne sont pas bonnes. Du plastique comme revêtement, c'est déjà, je trouve, sur un bâtiment du 19e, je trouve ça honteux.
Du plastique qui devient vite jaune pisseux.
Voilà, jaune pisseux, c'est juste... C'est une aberration. Ces lattes de bois qui font penser à un collège sont inadmissibles, à mon sens, sur une structure et dans un environnement comme celui-ci.
Ça casse un peu l'homogénéité du paysage urbain.
C'est ça.
Et personne n'a jamais utilisé ces installations.
Non. Elles n'ont jamais été ouvertes.
C'est un fiasco total.
Ah, c'est un fiasco total. On gère un fiasco total.
Et alors, quel avenir pour cet étrange objet architectural ?
Pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas vraiment le savoir, parce que tant que notre procédure judiciaire n'est pas terminée, on n'a pas encore de perspective.
Et elle consiste en quoi, la procédure judiciaire ?
Eh bien, donner les responsabilités de chaque participant aux travaux de cette ignominie. Et
les connaît dans les grandes lignes, les responsabilités.
Oui, mais le fait de les connaître ne répond pas forcément à...
Juridiquement,
juridiquement
au problème.
À la problématique. Ah. Voilà. On peut aller visiter. Allez. Non, parce que tout n'est pas à jeter quand même. Le reste, l'entrée, vous allez voir, est quand même assez incroyable.
On va entrer par un bâtiment qui doit être du début du 20e ou quelque chose comme ça.
Oui, 1880, je crois. Et, il date, hein. Donc ça avait été fait avec des investissements, avec beaucoup de mécénat aussi, hein. Les portes avec les vitraux traditionnels. Donc je ferme derrière.
Oui, on est bien dans l'ambiance. Il y a trois arcades, thermalisme,
du 19e.
Les aubonnes, aqualudisme. C'est un concept plus récent, je pense.
Voilà, donc vous voyez, avant, quand on rentrait dans l'établissement, on avait au plafond des œuvres picturale, alors assez naïve, assez simple, hein, vous voyez, de ce genre. Vous voyez. Mais bon, l'architecte n'a pas pu, n'a pas voulu, c'est selon, les rénover, donc a refait un plafond en placo, classique. Ouais. Voilà. Pourquoi conserver l'historique ? À quoi bon ?
Voilà. on vous sent un peu ironique, là.
Oui, déjà. là, on va dans le secteur ORL. Donc, c'est tout ce qui est traitement des voies respiratoires, avec tous la machinerie pour le traitement des ORL. Alors ici, il faut savoir qu'ici, on fait donc les soins pour tout ce qui est sinus, poumons, gorge, tout ce qui est rhino-pharyngeaux. Donc il y a eu cette pirouette architecturale qui est la bulle, qui est un fiasco énorme. Et bien sûr, il y a eu d'autres rénovations. Il y a eu des rénovations sur tous les soins ORL. Et cette rénovation de soins ORL, même là, on a des problématiques énormes de son avec ce plancher flottant qui devrait être malheureusement fixe et ne devrait pas avoir, quand toute la machinerie ultrasonique pour l'eau est en fonctionnement, ne devrait pas monter à 90 ou 100 décibels.
Une quinzaine d'étranges lavabos, c'est du marbre,
oui.
Non ?
Oui, c'est du marbre. Ouais. Alors ça, c'est les bâtiments, ça, c'est le marbre, c'est les lavabos qui ont été conservés de l'époque antérieure. Là, on a eu des curistes une saison depuis que ça a été refait. Et puis, voilà, on sait juste que ça fait un boucan du tonnerre. Les personnes qui étaient là pour faire les soins étaient obligées de travailler avec des boules de caisse parce qu'il y avait un bruit tellement important que ce n'était pas soutenable à la journée. C'est une des problématiques majeures parce que l'objectif principal de ce bâtiment, c'est le soin.
On soignait donc entre autres des maladies respiratoires,
dont
la terrible tuberculose. Et on peut gager qu'on mourrait beaucoup aux Aubonnes.
Non, ben non, l'eau est tellement bonne qu'on restait.
Vous défendez bien votre marchandise.
Non, non, on a un taux d'ozone dans l'air qui est important. C'était souvent un lieu de villégiature et les personnes venaient prendre les eaux et venaient en convalescence. Donc c'était... C'était justement, la plupart du temps, pour de la convalescence. C'était pas du soin palliatif. Hein. Même si le village donne plutôt l'impression d'être en soin palliatif, maintenant. Mais voilà, donc c'était non, c'était un lieu où beaucoup se ressourcer et venir reprendre justement de l'énergie pour passer les jours plus mauvais ailleurs.
Ce très grand bâtiment qui était un ancien hôtel, le Relais d'Ossau.
Alors ça, la première pierre a été posée par l'impératrice Eugénie en 1861 et c'était un hospice à l'origine, l'hospice Sainte-Eugénie qui accueillait des soldats en convalescence et qui est au pied de la butte au trésor qui est juste à sa gauche.
David Apesetsch, architecte.
Qui est une butte, un piton rocheux en fait au centre du village d'où jaillit la source vieille. Et donc les thermes sont aussi de l'autre côté cette butte au trésor, parce que les thermes sont construits directement sur la source. Et cette butte au sommet, il y a un kiosque, donc il y en a trois sur la commune, à trois endroits différents, sur trois promenades, et qui permettent d'avoir des panoramas assez pittoresques de la montagne environnante et du village. Et voilà, celui-là est situé au sommet de la butte au trésor. Et donc l'hospice Sainte-Eugénie, qui est une bâtisse imposante, qui est tout en haut du village et donc qui est assez isolée du reste du village.
Et dans un sale état.
Oui, ben, ça a été dégradé. Ça a été dégradé depuis Alors il y a eu après l'hospice, il y a eu donc un centre de vacances des PTT qui venaient ici en vacances. Et puis le bâtiment a fermé en 2006. Et depuis, il se dégrade. Mais c'est un bâtiment qui a beaucoup servi à l'urbex. C'est-à-dire qu'il est beaucoup visité. Donc il y a des dégradations, mais qui sont plutôt des vitres cassées, quelques tags. Mais le bâtiment lui-même est toujours en bon état. La toiture est toujours étanche, il n'y a pas de problème structurel important. Donc ça, c'est un des bâtiments des Aubonnes qui pourrait être rénové.
Il y a une salle de bal, je crois, hein, dedans.
Alors il y a tout au premier étage, il y a toute une partie de parties communes, avec des salles de restaurant et... des salles de divertissement, et puis aux étages donc il y a des coursives en façade qu'on voit là, et puis les chambres sont sur la face arrière.
En tout cas, à l'heure où nous parlons, il n'est pas question de démolir ce bâtiment.
Ah non, il y a des projets de reprise pour l'instant qui n'ont pas abouti, mais bon, il y a aussi une complexité du fait que c'est devenu une copropriété, Donc là, il y a plusieurs, il y a un grand nombre de copropriétaires, donc il faut mettre un peu tout le monde d'accord. Mais il y a des tentatives de reprise de ce bâtiment. Donc on espère que certaines déboucheront sur une rénovation, voilà.
Vous voyez, là, nous sommes dans le hall d'entrée original. Là, il n'y a quasiment rien de fait. Hein. Quelques coups de peinture, une réhabilitation des vitraux au plafond. Vous voyez, il y a juste le hall d'accueil qui était... voilà. On a mis cet
hall d'accueil. Un comptoir en
formica. Voilà, un comptoir en formica dans un établissement comme celui. Voilà, contraste assez étonnant.
Et ça sent le soufre.
Ça sent, oui, ça sent le soufre, parce que sinon, il suffirait avec énormément de barégine. Une substance un peu laiteuse. Et donc, c'est ce qui apporte toute le soin au curiste. C'est ça, ce médicament. Alors, vous voyez là, à l'occurrence, vous avez une mosaïque donc, du 19e. Un sol qui est magnifique. Hein. Et cette mosaïque, voilà comment un architecte qui se dit garant de la... de la continuité historique des bâtiments, voilà comment on rénove une mosaïque du 19e en mettant du ciment à la place des petits carreaux.
Voilà. Oui, c'est pas très heureux.
Ah, c'est même plus que ça. Je trouve que c'est une faute professionnelle à ce stade-là. Quand vous faites voir ça à des mosaïstes, je peux vous assurer qu'ils sont outrés et choqués. Donc on va passer par le vestiaire par ici. On est encore dans la partie historique, hein. D'accord, ça a été rénové. Oh, ça ira, vous inquiétez pas. Voilà, on prend le parcours. Donc là, on est sur la partie nouvelle. Hein. L'escalier a été fait. Problème majeur. Là, vous voyez, on a un décalage entre le plateau du seuil de l'escalier et puis le seuil de la salle thermoludique.
C'est si grave que ça ?
Il y a un décalage de plusieurs centimètres dû justement à l'affaissement du bâtiment général.
Ah, d'accord.
C'est toute cette partie-là qui s'est affaissée. Voilà. Donc là, ça devait être l'espace thermoludique, donc on utilisait donc l'eau pour des soins. Et là, c'est vraiment de la détente. C'était plus des soins de cure.
On barbote.
Voilà, là on barbote. Voilà. Donc là, les étés ont été mis pour sécuriser le bâtiment. Vous voyez, avec des capteurs.
Pour mesurer les mouvements de la structure.
Voilà, on calcule les mouvements de la structure, voir si ça évolue ou pas. Donc, en fonction, il y a des fois où ça s'écarte, des fois où ça se rapproche. C'est du bois, donc ça a tendance à être assez souple, mais voilà. Et là, ensuite, donc, on avait un sauna. Et puis, donc, une grotte musicale avec un superbe jeu, par contre, ça, on ne peut pas le dire, un jeu de miroir qui donnait une perspective à l'arrière, parce qu'on était quand même long d'un muret. Donc, voilà, on avait cet endroit assez insolite. Mais on n'a juste pas pensé au fait que quand on rentre dans un bassin comme ça, c'est compliqué de sortir quand on est au milieu et qu'il n'y a pas de rambarde. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, ça fait partie des gags. Il y a plusieurs gags comme ça. On a un sauna qui est magnifique ici, mais quand on sort du sauna, en général, on est assez transpirant. Donc on a besoin soit de se doucher, soit de se... Et non, là, il faut transverser tout le bâtiment pour aller prendre sa douche après le sauna, normal. Donc on va partager avec la sueur, voilà, c'est logique. Ou alors les gens iront directement là sans se rincer, c'est pas très, très hygiénique. Voilà. Et pareil, donc on a tout un espace d'aqualudique avec plusieurs bassins, mais pas de toilettes pour répondre à des besoins naturels. Bon, c'est assez incroyable. Thank you.
on est sur la place principale des Aubonnes, devant un bâtiment très impressionnant qui porte toujours l'enseigne Hôtel des Princes. Il est en très mauvais état, ça se voit. Il a été construit quand ?
Alors c'est un bâtiment très long puisqu'il structure toute la face ouest de la place. Et il a été construit entre 1854 et 1872 en plusieurs étapes et on arrive à lire sur les façades avec le premier corps central avec la grande entrée, l'Hôtel des Princes, puis une addition là en 1860 qui est en briques. Alors tout est de style, on va dire néoclassique haussmannien, mais il y a une partie qui est en pierre enduite et une partie qui est en briques qui a été ajoutée en 1860. Et le reste, côté sud, les différents bâtiments étaient ajoutés dans le temps jusqu'en 1872.
C'était évidemment un hôtel de luxe.
Oui, c'était un palace avec... pour l'aristocratie qui venait aux Aubonnes en villégiature, avec un court de tennis creusé dans la falaise à l'arrière, puisque la particularité, c'est que toute l'arrière de l'hôtel est à flanc de falaise. Donc il y a sur la partie arrière des coursives qui sont appelées ici galeries béarnaises. Ce sont des coursives ouvertes qui permettent de desservir les chambres en latéral, qui ont été vitrées, mais qui sont de typologie galerie béarnaise, et qui donnent vraiment sur la falaise. Donc... Un angle droit a été dynamité en fait dans la falaise pour y faire un court de tennis, qui est une excentricité, voilà, comme il y en a pas mal aux Aubonnes.
Il a été vendu plusieurs fois.
Comme la Tour Eiffel.
Il y a eu notamment dans les années 2000 un promoteur immobilier qui a donc acheté tout le bâtiment, les 9000 m² pour 19 000 euros, en promettant de faire des appartements de standing qu'il a vendus sur plan. Et puis, donc, plein de personnes de toute la France ont acheté ces appartements sur plan. Et ce promoteur est donc parti avec, avec la caisse. Et rien ne s'est passé. La particularité de cet hôtel, c'était que déjà que les calèches pouvaient entrer par la porte ici, la porte d'accès, qu'il y avait de quoi garer les calèches de l'autre côté et qu'il y avait un terrain de tennis dans l'hôtel. Il y avait un dentiste dans l'hôtel pour les pensionnaires. Il y avait un salon de thé, des services, des prestations assez haut de gamme pour l'époque. Et donc le promoteur s'était engagé auprès de la mairie à restaurer le terrain de tennis, à rendre le rez-de-chaussée accessible aux visites, à mettre aussi une salle disponible pour éventuellement des conférences, une salle de réception, et à faire un musée sur le village. Donc c'était pour ça que la mairie avait accepté de vendre l'hôtel. Au moment où l'hôtel a été vendu, la mairie avait d'ailleurs signé un arrêté parce qu'ils voulaient le démolir. Parce que la mairie n'avait pas les moyens d'entretenir. Au départ, ça devait être démoli. Puis, ça a été classé au monument historique. Puis, ils l'ont vendu à ce promoteur. Puis là, ça vient d'être racheté cette année par un couple de jeunes suisse-allemands qui, eux aussi, apparemment, ont un projet de rénovation de l'hôtel pour en faire des appartements et des chambres aussi. Et
pour aussi, la modique somme de 20 millions d'euros.
Non. Je ne sais pas combien ils l'ont acheté, mais je sais que la rénovation... coûterait autour de 25 millions d'euros.
C'est ce que je voulais dire.
Oui, voilà.
Tellement bougé qu'on ne peut même plus ouvrir la porte. Donc,
entièrement en tout cas.
Donc là, on arrive à l'étage où en fait il y avait toutes les cabines pour les soins esthétiques. Ouais. Donc des gommages, des bains d'argile, des bains de, enfin des cataplasmes d'argile, des cataplasmes de miel aussi également. Mais pour en revenir encore à l'effet gag. Ici, par contre, il y a des toilettes, mais il n'y a pas de douche. Donc pour se doucher, en fait, donc quand vous aviez votre argile ou votre miel sur vous, bah, il fallait redescendre par l'escalier jusqu'en bas. Bon, normal.
Et faire des tâches.
C'est un bon sens architectural, normal.
Oh la vache. Ça a bien bougé.
Alors, regarde, les planchers ont gonflé. Et regardez un peu l'état des
fenêtres.
Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, quand le bâtiment a bougé.
Ah oui.
Il y a un écart de 3 cm en haut de la fenêtre par rapport à la base. Et ça, sur toutes les fenêtres, on a lu.
Ça vous laisse quel sentiment,
cette, du gâchis.
Cette déshérence.
Du gâchis. Du...
L'atmosphère, quand même, est très particulière.
Ouais,
parce que c'est... Nous sommes tous les trois dans l'établissement thermal, qui est complètement vide.
Complètement vide. Il est interdit au public, de toute façon, par rapport, vous l'avez bien vu, hein, par rapport aux problématiques du bâtiment. Et donc, ouais, c'est une sensation simplement de non, enfin simplement, non. C'est une sensation de gâchis, d'un gaspillage monumental, d'un loupé, mais considérable. Et encore plus quand on est élu, parce qu'on compte sur nous pour essayer de trouver des solutions et on n'est pas capable d'amener des solutions. Donc, c'est encore plus déroutant.
Mon mauvais esprit naturel me fait un peu comparer ce que vous décrivez, Jean-Luc Brault, aux éternels travaux de la Maison de la Radio, qui devaient durer de 2005 à 2012, de mémoire, et qui sont toujours en cours.
C'est pas toujours pas fini.
En 2024. Eh bien non.
Eh bien, vous voyez, les mauvais esprits se rencontrent.
Je pense que c'est un endroit vraiment très atypique et ça on le réalise pas assez. C'est-à-dire que je pense que quand on passe aux Aubonnes, on se rend compte qu'il y a une dimension particulière dans ce village sans forcément la rationaliser, quoi. Alors que c'est un endroit qui a à la fois une forme urbaine très particulière puisqu'il a été construit sur quelques décennies au 19e siècle et il est resté intact, contrairement à d'autres stations thermales qui se sont transformées et sont devenues des villes, et donc que cette notion, cette architecture du 19e s'est un peu diluée, alors qu'aux Aubonnes, elle est restée vraiment intacte. Donc il y a une dimension patrimoniale qui a beaucoup de valeur, mais au-delà du patrimoine, c'est que c'est une expérience, quoi, vraiment une ambiance très particulière, les Aubonnes, parce qu'autour il y a l'architecture, mais il y a aussi les espaces publics, il y a le grand jardin central.
Est-ce qu'il y a une utopie ?
Oui, moi, c'est une forme d'utopie thermale, c'est-à-dire que c'est un bout de quartier de grande ville rêvé du 19e, posé en pleine montagne, dans les Pyrénées.
On pose nos fesses là-dessus ?
Oui.
Allez. Là-bas, vous avez des lamas, tiens.
Des lamas.
Ouais. Il y a le propriétaire d'une maison là, qui a un grand terrain là. Vous les voyez dans le champ là ?
Il y en a un blanc.
Il y en a un blanc et il y en a deux foncés là.
C'est pas endémique.
Non, non.
Des Pyrénées, les lamas.
Il avait le choix, acheter une tondeuse ou prendre des lamas. Bon, c'est pas plus mal. Voilà. Ici, vous êtes sur la promenade horizontale qui fait 1,5 km de long. Promenade horizontale, comme son nom l'indique, elle est totalement plane. Parce qu'ici, c'est vrai que pour trouver des endroits plats comme ça, c'est pas facile. Oui. Hein. C'est pas facile. Et alors, c'est un lieu de déambulation de tous les touristes qui veulent avoir une vue sur la vallée d'Ossau, que l'on aperçoit ici à droite, et qui veulent respirer le bon air, encore une fois. Voilà. C'est une des promenades importantes.
Est-ce que vous regrettez la déshérence de l'endroit où nous sommes, les Aubonnes, département 64?
Oui, mais encore une fois, on ne peut pas parler de déshérence totalement, parce que c'est vrai qu'ici, on ne fonctionne plus qu'en station montagne parce que le thermal est fermé. Mais bon, on ne peut pas parler de déshérence parce que vous le voyez, il y a du monde qui se promène quand même. Il y a du monde qui est en vacances et qui se promène et qui... c'est vrai que l'été, si vous étiez venu cet été par exemple, et notamment depuis le Covid, Il y en a beaucoup qui ont choisi de venir à la montagne en vacances. Et donc, ici, nous avons toutes les possibilités de logement. On n'est pas loin de tout. En fait, on est à 5 minutes d'un village qui a tous les services publics. Parce que même si nous n'avons pas tout, nous, à 5 minutes d'ici, ils ont tous les services publics. Ils ont les supermarchés, ils ont les toubis, ils ont tous les soins médicaux à portée de... voilà. À 5 minutes de voiture.
Jean-Luc Brault, où nous trouvons-nous ?
Nous sommes en haut des thermes, justement. Nous sommes sur la terrasse, tout à fait en haut, à l'extérieur. Et donc, nous avons une vue magnifique sur la vallée du Valentin et donc sur la commune des Aubonnes. Donc, on a sur côté nord, on a la montagne verte avec le village d'As qui est en fond là-bas. Le village d'Assous, on ne le voit pas, il est en contrebas. Le casino qui est côté ouest. Et puis, derrière nous, on a la butte au trésor. On appelle la butte au trésor parce qu'au pied de cette butte, eh bien, se trouve le trésor, le vrai trésor de la commune des Aubonnes, à savoir son eau bonne, voilà, qui a été puisée dans les années 80 avec un puits artésien à 90 mètres de profondeur.
Ouais. Voilà. Et une température d'à peu près 32 degrés, je crois.
Un peu plus, 40, elle doit sortir à 42 ou 45 degrés.
Ah oui.
Et avec un débit d'un peu plus de 17 ou 18 mètres cubes heure, naturellement. Une eau très chargée en soufre et en bas régime.
Et vous pensez, dur comme fer, Jean-Luc Brault, que l'établissement thermal des Aubonnes sera relancé dans de bonnes conditions un jour ?
Ah ben moi, en tout cas, c'est la mission que je me suis donnée, ça c'est évident. Moi,
vous
personnellement...
Vous pouvez que
penser ça. Ben non, mais à la rigueur, c'est ce pourquoi on est reparti au municipal 2020. C'était justement pour finir et finaliser ce projet. J'espère que je finirai mon mandat et m'arrêter sur cette note-là, en tout cas.
Aubonne, station thermale en panne, souvenir d'une impératrice. Avec David Apesetch, architecte, Isabelle Rugutor, habitante et amatrice des Aubonnes, Jean-Luc Brault, maire des Aubonnes, Christian Lousteau, adjoint au maire des Aubonnes. Texte lu par Arnaud Carbonnier. Merci à Laurence Deschaux de la Villa Excelsior, ainsi qu'à Nadine Bueno et Viviane Delpech, et à la Bibliothèque interuniversitaire de santé et médecine. Bibliographie, liens et podcasts sur franceculture.fr. Documentation, Annelise Signoret. Recherche musicale, Antoine Vuillouze. Coordination, Johanna Bedeau, attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Archivina, Isabelle Fort-Rendu. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par François Teste.